Voilà, merci d'avoir répondu un peu au pied levé, si je puis dire, à cette invitation, à cette conférence de presse que j'ai voulu faire le plus vite possible, hein, pour vous donner un peu mon ressenti d'évêque après la remise ce matin, que je suppose vous avez suivi d'une manière ou d'une autre, du rapport de la commission SIAS par le président de cette commission et les experts qu'il avait choisis pour mener à bien cette enquête, cette analyse, donc au président de la conférence évêques de France, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, et à sœur Véronique Margron, qui est donc la présidente de la COREF, hein, la conférence des religieux et religieuses de France. Vous savez en effet que cette commission avait été voulue par les évêques pour avancer dans le traitement de la question. En 2018, c'est une décision qui avait été prise par les évêques de France. Il y avait une double décision qui a été prise en 2018. C'était la constitution de cette commission indépendante qui a été confiée à une personne de grande probité et de notoriété, à M. Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État. Et la deuxième décision qui avait été prise à ce moment-là, c'était aussi de faire tout un travail de reconnaissance de la souffrance des victimes. Je crois que ce qui me frappe le plus quand j'ai pris connaissance de ce rapport, déjà hier soir nous avons eu une première visioconférence avec les évêques pour avoir un petit peu l'essentiel du contenu de ce rapport qui avait été déjà remis à Mgr de Moulin-Beaufort et à Sœur Véronique Margron il y a déjà une petite semaine, c'est d'abord la place centrale donnée aux victimes. Je crois qu'on a compris que d'ailleurs même dans la méthode qui a été mené par M. Sauvé et son équipe, ça a été vraiment d'associer... Bonjour, entrez. Ça a été vraiment d'associer les victimes à ce travail d'enquête et qui nous a permis aussi de prendre la mesure que sans doute nous n'avions pas assez dans le passé pris en compte les victimes et mesuré la souffrance qui était la leur, le drame, qui était pas seulement un drame psychologique, mais un drame existentiel et même spirituel, qui était le leur. Et je pense que l'une du succès de ce travail accompli par la commission Sauvé, c'est d'avoir commencé par faire un appel à témoignages, auditionner des victimes qui ont bien voulu être auditionnés, car on sait bien que toutes les victimes ne désirent pas parler, ne souhaitent pas, parce que c'est une grande souffrance toujours de revenir sur le passé et sur ce qui les a profondément détruits en eux-mêmes, quand ils étaient enfants, en plus. Pour ceux qui ont pu être entendus, vous avez su qu'il y a eu à peu près 6000 contacts, ou bien par oral, par téléphone, 250 auditions plus approfondies de victimes qui ont bien voulu être entendues, et puis de témoignages écrits qui ont été aussi envoyés à la commission. Ça fait donc 6000 à peu près victimes qui ont accepté de se manifester. A été ajoutée à cette méthode, qui s'est attachée donc à l'appel à témoignages, toute la place donnée aux victimes et donc à leurs témoignages, et qui n'a pas laissé indemne, comme vous le savez, ni M. Sauvé et ni les experts qui sont entrés dans cette aventure. Il y a eu un travail archivistique, donc les archives des diocèses, une trentaine de diocèses qui ont été sondées. Il y a d'abord eu un travail de statistique de toutes les archives diocésaines de tous les diocèses, auxquelles on a répondu, je vous en dirai un petit mot après. 30 diocèses dont les archives ont été sondées effectivement par les experts, 11 ou 15 instituts religieux aussi. Et puis un travail d'archivistique auprès du ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, des archives judiciaires et les archives aussi historiques de la conférence évêques de France. Et s'est ajouté à cela une autre initiative qui a été confiée à l'INSERM et à l'IFOP, une enquête d'opinion sur population générale, sur un échantillon quand même de 28 000 personnes. Ce n'est pas seulement un sondage sur 1 000 ou 2 000 personnes, mais c'est un sondage qui a été fait sur 28 000 personnes qui ont été interrogées, de personnes adultes, sur la question « Avez-vous été abusé sexuellement, tout milieu confondu, avant l'âge de 18 ans, pendant votre maturité ?» Et c'est là qu'on trouve que les choses sont effrayantes, et je reconnais que en entendant le rapport Sauvé et le résultat quantitatif qui évidemment frappe plus les esprits, eh bien on est quand même effrayé. Hein. D'abord c'est 5 500 000 victimes, tous milieux confondus, donc dans la population adulte française. C'est 14,7% de femmes et 6,4% d'hommes. Je parle sous contrôle parce que les chiffres ne sont peut-être pas tout à fait précis, mais voilà. Et sur ces 5 500 000, évidemment, le cadre, le contexte où ces abus sexuels sont perpétrés, qui est le plus important, est celui de la famille et de la famille élargie au milieu amicaux. Mais après, quand il s'agit des institutions, pour les 10% restants, la première institution, qui est celle qui arrive en tête, c'est quand même l'Église. Hein. Avant l'éducation nationale, avant le milieu du sport et tout ce qui est milieu socio-éducatif. Sans doute qu'il peut se comprendre parce que, comme vous le savez, cette enquête et cette analyse s'est faite depuis 1950 jusqu'à 2020. Et c'est vrai que dans les années 50-60, jusqu'aux années 70, l'immense majorité des jeunes français et des enfants français passaient par des institutions d'église, hein, que ce soit les paroisses, les pèlerinages, les camps de jeunes, les retraites de communion ou de confirmation ou de profession de foi, les patronages, qui étaient très importants et qui étaient encore un peu l'origine de nos clubs sportifs, de beaucoup de nos clubs sportifs d'aujourd'hui, l'enseignement catholique, évidemment, avec une fréquentation du prêtre avec ses jeunes qui était, j'allais dire, quasiment H24. Bon. Donc c'est vrai que c'est quand même terrifiant, hein, de savoir qu'on arriverait à une estimation, j'entends bien comme M. Sauvé qui dit bien que c'est une estimation, mais de 216 000 victimes de prêtres et de religieux, auxquels il faut ajouter un certain nombre de victimes qui ont été perpétrées par des laïcs en mission ecclésiale, et ce qui arriverait à 330 000, avec une fourchette de plus ou moins 50 000, si j'ai bien compris ce que nous a dit M. Sauvé ce matin. Donc c'est effrayant. Hein, entre les 6 000 qui ont pu se manifester et les 330 000, si l'on compte aussi 34% de ces victimes qui ont été le fait de laïcs, hein, en missions ecclésiales, c'est effrayant et ça oblige évidemment à d'abord recevoir la vérité, hein, il n'est pas question de se dédouaner, et surtout, je crois que c'est ça qui me semble le plus important, c'est l'accent qui est mis sur la victime qui est au centre, et on est bien obligé, hein, là je le fais de manière tout à fait libre, mais on est bien obligé de reconnaître que dans l'Église, et on ne va pas se dédouaner en disant que c'est aussi de manière générale dans la société, mais dans l'Église en particulier, puisque ça nous concerne, et nous qui nous disons souvent que l'Église est experte en humanité, eh bien c'est vrai qu'on n'a pas été suffisamment attentif dans toute la manière dont on a voulu traiter les problèmes depuis des décennies aux victimes elles-mêmes. Hein. C'est vrai qu'on sait que dans les années 50-60, où se trouve le sommet des agressions sexuelles dans la population générale, mais en particulier dans l'Église, eh bien, les évêques ont quand même pris conscience de la difficulté et ont constitué des instituts pour accompagner les prêtres en difficulté, leur apporter une possibilité de guérison, d'amendement, de réparation. Tout ça s'est effondré en 1970, où là, il y a moins d'abus. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de personnel clérical, parce qu'il y a beaucoup d'institutions catholiques qui se sont effondrées, en particulier auprès de la jeunesse, et parce qu'il y a eu aussi, à ce moment-là, à gérer tout un nombre de prêtres qui ont quitté le ministère, comme vous le savez. Mais, ceci dit, le problème est loin d'être derrière nous, puisque la commission Sauvé souligne qu'à partir des années 90, eh bien, il y a une reprise, même si elle n'est pas à la mesure des années 50-60, une reprise qui fait qu'entre les années 70, 80, 90, 2000, il y a une espèce de stabilisation, donc le problème reste devant nous. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que on n'a pas pris assez en compte la souffrance des victimes jusque dans les années 2010-2015, où on a commencé à prendre des mesures qui sont en effet certainement insuffisantes. C'est sans doute et même certainement grâce à des collectifs de victimes, hein, qui se sont constitués et qui ont commencé à crier leur souffrance et nécessairement leur colère. On en a eu évidemment un extrait ce matin par le discours de M. François Deveau, hein, qui est le président de la Parole libérée, hein, qui a effectivement remis beaucoup de choses, et ça finit par permettre de prendre conscience. Moi, je reconnais aussi que c'est pour avoir entendu, et pas seulement un quart d'heure, des victimes, et pour les accompagner de près, concrètement, que j'ai moi-même, depuis plusieurs années, pris la mesure du drame, hein, existentiel vécu par elles. Je peux vous dire que au début, on nous disait « forçons à une victime qui est demandée pardon au nom de l'Église ». Mais c'est très facile. Dire à quelqu'un pendant un quart d'heure, 20 minutes « je vous demande pardon au nom de l'Église », c'est pas comme ça qu'on accueille les victimes. Et je me suis rendu compte qu'une victime, elle a besoin de temps quand elle veut bien s'exprimer, parce que certains ont du mal à s'exprimer. J'ai reçu des signalements, si je puis dire, que j'ai fait ensuite, à partir de personnes qui sont venues très proches de victimes, qui n'ont pas osé venir me voir, qui n'ont pas réussi encore à venir me voir, même si on a pu se téléphoner, qui n'ont pas été jusqu'à la rencontre. Par contre, je peux vous dire que, quand on rencontre une victime avec suffisamment d'attention, je pense à une ou deux victimes en particulier que j'accompagne, parce que je pense que ce n'est pas seulement une écoute au cours d'une audition, mais c'est un accompagnement qui demande un vrai investissement personnel et jusqu'à créer une relation de fraternité, hein, j'ose le dire, parce que je pense à une victime très particulièrement aujourd'hui avec qui nous avons été en contact par texto là, ce matin, il y a quelques minutes. Et je vois bien qu'il y a une relation d'écoute qui est vraiment fondamentale, qui n'est pas seulement une écoute, qui doit être une écoute attentive, une écoute cordiale. Et c'est là que je reconnais que j'ai vraiment pris conscience du drame que ça représentait pour une personne. Cette victime qui me disait « le prêtre n'a pas seulement violé mon corps, mais il a violé mon âme ». Ça s'est passé dans les années 70, tout début des années 70, mais d'un prêtre qui aujourd'hui est décédé depuis 20 ans. Mais ceci dit, le mal est toujours là. Hein. Et même si, hélas, parce qu'il n'a pas pu en parler avant, il n'y a pas eu de procédure judiciaire, il est là avec son mal et qui le détruit et qui l'a détruit. Hein. Et il m'a dit, il a violé mon âme et il m'a séparé de Dieu. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre que souvent, il s'agit de victimes qui sont dans l'Église, qui étaient dans l'Église. D'ailleurs, on a entendu ce matin que la plupart de ceux qui peuvent parler sont ceux qui sont encore restés en lien avec l'Église. Mais certains ont laissé l'Église depuis si longtemps et ont tel ressenti qu'on peut très bien comprendre vis-à-vis de l'Église comme institution qu'ils n'ont pas pu s'approcher de nous pour en parler. Pour moi, c'est tout à fait fondamental et je reconnais que depuis, chaque fois que je reçois une victime, je leur dis toujours, mais sachez que je n'aurai pas peur de la vérité, que l'Église pour moi n'est pas une institution à protéger. Parce que l'Église, c'est vous. L'Église, ce sont des membres, ce sont des êtres de chair et de sang, à commencer par ceux qui sont les plus blessés, des enfants qui faisaient confiance en des prêtres, en des religieux, en des laïcs, en mission ecclésiale, ce qui paraît tout à fait logique dans le contexte de chrétienté qui a été le nôtre longtemps. Et l'Église, c'est vous. Et donc, c'est vous qui avez toute mon attention. Ce n'est pas une structure, ce n'est pas une organisation, parce que l'Église n'est pas une organisation. Elle est un corps, c'est le corps du Christ, et le Christ s'identifie aux plus petits, aux plus blessés, et donc c'est eux qui doivent avoir à ce moment-là la première place. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, l'état des lieux est effrayant. C'est vrai que je reprendrai volontiers les mots que M. de Moulin-Beaufort a exprimés ce matin en réponse à la présentation du rapport. Il y a vraiment un sentiment de honte. Il y a un sentiment d'effroi qui peut nous traverser, et en même temps un sentiment de détermination pour continuer à accomplir ce qu'il faut pour prendre la mesure du phénomène, prévenir sans doute pour que l'Église devienne une maison toujours plus sûre, et puis en même temps il y a des mesures que nous avons déjà prises. Vous avez sans doute su les 11 mesures que les évêques de France en avril dernier, au cours de leur assemblée plénière, ont adopté pour avancer, en particulier dans la reconnaissance de la souffrance des victimes et dans l'aide à la reconstruction, à la réparation, aussi en justice. La commission nous a présenté ce matin dans son rapport 45 recommandations. C'est évident que je ne pourrais pas beaucoup les commenter, hein, vous imaginez bien. D'abord parce que c'est un rapport qui fait 2000 pages, 500 pages de rapport et 1500 pages d'annexes. Et il faudrait évidemment que la conférence des religieux religieux de France, la conférence des évêques de France, dans son assemblée plénière de début novembre, eh bien, décortique ces recommandations, voit comment elles évaluent les mesures déjà prises, qu'est-ce qu'il faut faire de plus, hein, et comment on va les intégrer dans notre manière d'accompagner les victimes et de prévenir dans la formation des prêtres, des futurs prêtres, dans la pastorale des jeunes, dans la vie de l'Église d'une manière générale, comment on va essayer de prévenir de nouveaux drames. Voilà.